Nous ne sommes toujours pas des terroristes.
Pascal Rullier dans le micro, Gilles Gouget, on est avec vous sur les ondes de Divergence FM 93.9 à Montpellier, divergence-fm.org, mais aussi pour nos bons amis de plus haut dans le nord, du sud de la France, dans les Cévennes, qui vont bientôt se battre contre l'exploitation du gaz de schiste. Mais c'est une autre histoire de Radio Escapade sur le 104.1 et le 103.3.
Oh, il connaît les fréquences par cœur maintenant. Et puis une petite pensée aussi à nos amis belges qui nous écoutent ou québécois sur divergence-fm.org. Je me reconnais plus avec ce nouveau micro.
Et oui, voilà, des nouveaux micros pour une radio qui a attendu pas moins de 20 et quelques années pour avoir enfin des vrais micros de radio dans ses studios. Et c'est avec beaucoup d'émotion que nous les utilisons depuis quelques jours à peine.
C'est vrai, alors une divergence numérique numéro 96, on approche la centaine à grands pas, 16e émission de cette saison. Avec au menu votre traditionnelle revue de presse de l'April, april.org. Et puis l'AFUL nous parlera de son bilan 2010, de ses actions 2011 et des changements à la tête de celle-ci.
Et puis voilà, l'AFUL, l'association francophone des utilisateurs logiciels libres, qui, comme son nom l'indique, a une vocation à traiter des choses internationales, évidemment. Et puis dont Thierry Stoer est un des éminents représentants, une personnalité du monde du libre, comme on les aime bien, dont la truculence et la sémillance n'a d'égal que celle de Benjamin Bayard ou d'autres.
On terminera l'émission avec votre traditionnel agenda du libre, et puis ce sera ponctué par une sélection de notre technicien du jour.
Voilà, j'ai pris un petit peu de temps pour aller sur Dogmazic, notre partenaire pour la sélection musicale de Divergence Numérique, pour trouver quelques titres qui ont accroché mon oreille. Et ce sera Black Poetry, Dr Migrania, The Womb, et puis aussi un petit clin d'œil à Dr Paradox qui manifestement a émigré à New York et qui est la musique de notre générique.
Mais tout de suite, ce sont les nouvelles du front.
Avec des pingouins qui se battent. Et c'était...
Des vrais pingouins.
Et oui, et ce sont carrément de vrais pingouins.
Les nouvelles du front.
Revue de presse de l'April, semaine 4 de l'année 2011. Bonjour Manu. Ah,
salut Luc.
Alors, au sommaire, pour cette semaine, Internet, j'arrête quand je veux, les pieds dans la grosse commission, Jeune et Japix, LibreOffice casse la baraque, ça sent le moisi, Adopi tombe dans le panel et enfoiré de panda. Alors pourquoi enfoiré de panda ? C'est un article de Numérama, la WWF France prend ses distances avec le DRM écologique. Donc cette affaire de DRM écologique, donc la WWF, c'est cette association de défense des animaux qui a un panda comme logo. Et il s'avère qu'en Allemagne, ils ont lancé un projet consistant à faire un format fermé, verrouillé par un DRM qui interdit l'impression, de telle sorte de, comment dire, d'épargner la nature.
Alors c'est un article de Guillaume Champeau qui descend un petit peu le format allemand et qui parle d'une lettre qui a été envoyée par l'April qui demandait à l'association française de quoi ils retournaient, pourquoi ils utilisent un DRM, pourquoi interdire en utilisant un DRM l'impression. Donc certes une chose qui semble noble a priori, mais qui passe par un moyen qui l'est bien moindre. Et bien, l'article relève la réponse de l'association française, qui consiste à dire « c'est pas nous, c'est eux, les Allemands, qui ont fait ça de leur côté ». Sans, a priori, on peut supposer qu'il n'y a pas eu d'accord des autres associations des autres pays, et que ça ne fait pas forcément très plaisir.
Dans les arguments qu'il y a contre ça, donc, l'idée c'est qu'avec les DRM, on va favoriser le fait d'imposer à des utilisateurs, des lecteurs, du matériel, des choses comme ça, que c'est dans une logique qui mène à renouveler son matériel, à faire consommer toujours plus et donc consommer des ressources. Donc si on a cette volonté de protéger l'environnement, il faut une réflexion un peu plus globale.
et en tout cas éviter d'utiliser les DRM qui sont un autre nom de ce qu'on appelle des menottes numériques dans l'association.
Bon. Adopi donc dans le panel, c'est le titre de l'article parce que bon, en amateur de grosses vannes pourries, voilà, celle-là on pouvait pas faire mieux. Donc un article de écran.fr, Adopi tombe dans le panel, donc par Camille Gévaudan. Bravo Camille pour ce titre. C'est donc une étude menée par Adopi sur les pratiques et l'image d'Adopi sur le piratage, ce genre de choses. Une étude appelée T0, qui est en point de départ. Ils en ont prévu d'autres plus tard pour voir l'effet d'Adopi. Alors qu'est-ce qu'on trouve là-dedans ?
Bien déjà, le journaliste a l'air, enfin, il pense que c'est une étude claire, neutre et complète. Hein. Plutôt, alors l'article est déjà relativement long. Et bon, dedans, il ressortirait que les Français sont assez négatifs sur les usages et pensent qu'il y a beaucoup de gens qui, soi-disant, piratent ou consomment de manière illicite des biens culturels. Mais en fait, il n'y a que, alors le que est à prendre de manière assez relative, je trouve, que 49% qui déclarent eux-mêmes être dans ce cas de figure. Alors 49%, je pense qu'au niveau d'un sondage, ça vaut largement 50%, mais que c'est juste le moyen de dire qu'il y a un peu moins de la moitié des Français qui sont des vilains pirates. Et donc, on doit pouvoir légiférer contre eux. Hein. Après tout, ils ne sont pas majoritaires. Quelle blague. Donc, il n'y en a que 13% qui avouent régulièrement utiliser des contenus illicites. Bon, là aussi, pourquoi pas, hein, certes.
Bon, d'un autre côté, ils ont dit que c'était un phénomène super massif, super lourd. Et là, on se retrouve qu'avec 13% de gens qui font ça régulièrement, c'est pas beaucoup, finalement, pour un truc massif.
Alors, ce qui ressort aussi de l'étude, c'est que, certes, hein, il n'y en a peut-être pas beaucoup qui déclarent être des pirates de manière intentionnelle, mais ce qui ressort, c'est qu'il y en a beaucoup qui se trompent et qui n'arrivent pas à décider si un contenu qu'ils vont voir sur le net est licite ou illicite. Et là, on peut citer, hein, c'est ça qui est assez comique, même un gars comme Thierry Lhermitte, on l'aime beaucoup, hein, il a beaucoup de qualité, mais...
Ah bon ?
Mais, si, moi, vraiment de la qualité, de la grande qualité culturelle, et ce monsieur, il a des parts dans des boîtes justement qui essayent de contrecarrer le piratage, et il a admis en public directement que lui-même avait téléchargé illégalement certaines œuvres, mais par erreur. Et il semblerait qu'il y a beaucoup de Français qui ont le même problème. Alors ça, c'est sur la fin de l'article, il fait remarquer que l'étude fait remonter que les femmes ont beaucoup de mal, elles sont larguées, et qu'elles confondent très souvent les sites légaux et illégaux. Alors, un des plus connus dans ces sites illégaux, mais qui ont l'air très légaux, parce que notamment on peut payer, c'est Mega Upload. Et chose amusante, c'est que c'est pas du tout couvert par Adopi, parce que là, c'est du streaming, ce n'est pas du peer-to-peer.
Alors, c'est pas du streaming, c'est... Tu peux télécharger des fichiers sur Mega Upload, et l'Adopi dit qu'ils vont s'attaquer à ce genre de service, mais on n'est pas sûr que ce soit tout à fait légal, mais ils prétendent l'inverse, en tout cas.
Et donc, dernière chose amusante, hein, quand on parle des chiffres, 51%, alors, bonne chance encore une fois sur un sondage qui doit avoir une marge d'erreur de 3, 4, 5%, donc 51% des internautes voient l'Adopi servir les intérêts particuliers de certains. Les certains, a priori, c'est les majors, les grosses compagnies culturelles, soi-disant, et qui, elles, essayent de gagner de l'argent sur le dos de l'Adopi et de tout ce qui est contrôle de la consommation culturelle. Et le dernier truc, le plus intéressant de tous, les internautes déclarant des usages illicites achètent plus que les autres.
Donc c'est la confirmation d'une chose qui avait été dite, mise dans des études préalables de nombreuses fois, et qui a toujours été avancé sur l'absurdité de taper aveuglément sur le téléchargement. Bon, on verra bien ce que donnera la prochaine étude.
Oui, hein, ça va faire plaisir à voir, on attend avec impatience. Alors, ça sent le moisi, c'est quoi ça, Luc ?
Alors, c'est une synthèse, on en avait déjà parlé, des synthèses faites par l'April, un article de silicone.fr. L'April lance une nouvelle charge contre les brevets logiciels, l'article de David Feuget. Donc c'est un travail qui est fait sur les différents chantiers, sujets importants, et notamment autour des dangers auxquels le logiciel libre est confronté, une synthèse sur la question des brevets logiciels. On va retrouver les problématiques, tous les éléments marquants qui permettent de s'y retrouver, de savoir pourquoi ça pose souci. Donc voilà, un document à aller lire, c'est compact mais très, très formateur, et ça permet de faire le point et de savoir où on en est, d'être pertinent sur le sujet.
Alors, moi, j'aime bien peut-être des petites notions qui sont dedans. Donc, les brevets logiciels, c'est ce que dit l'article, qui pourrissent petit à petit le marché américain. Le brevet logiciel remet en cause l'idée même que les idées sont de libre parcours, c'est-à-dire que c'est leur application matérielle qui est encadrée par le droit. C'est une synthèse qui est très complète et documentée, et qui présente les dangers des brevets logiciels et leurs conséquences sur les logiciels libres. Donc, vraiment, allez voir, c'est des plus intéressants et c'est vraiment complet. Alors, LibreOffice casse la baraque, un article Le Journal du Net. Charles-Henri Schulz de The Document Foundation qui dit « Nous allons renforcer l'écosystème de LibreOffice », article de Dominique Philippone. Qu'est-ce que tu en as retenu, toi, Luc ?
Alors, quelque chose d'intéressant, on avait rencontré Charles-Henri Schulz quelques fois. Donc c'est un bilan, enfin donc LibreOffice c'est le fork d'OpenOffice. Ils viennent de sortir leur version 3.3, première version stable, et l'ont sorti avant la nouvelle version d'OpenOffice. Et puis bon, moi, ils profitent de cette interview pour faire un panorama du projet, pour voir où ils en sont. Ils ont une équipe qui a beaucoup grossi, ils ont maintenant une centaine de développeurs et d'autres contributeurs en plus. Cette nouvelle version, il y a vraiment de l'évolution, c'est pas juste une version stable équivalente à ce qui se faisait avant. Notamment, ça démarre beaucoup, beaucoup plus vite, et ça c'est agréable, parce que OpenOffice était un peu lent à démarrer. Et quelques progrès au niveau interface, ils ont viré pas mal de trucs en Java, mais quoi d'autre ?
Bah, globalement, on peut dire que c'est déjà aussi stable que OpenOffice. Moi, j'ai installé LibreOffice aussi, ça marche de base sous Debian maintenant. Parmi les annonces d'ailleurs, il y a Ubuntu qui vient d'annoncer qu'ils allaient passer à LibreOffice, et il y a d'autres distributions qui vont faire de même, ce qui veut dire que la communauté tout entière est en train de se placer derrière. Ça doit faire mal au cœur à Oracle, hein, mais après tout, c'est un peu de leur faute aussi.
Oracle, ce qui les intéresse a priori, c'est les clients qui peuvent payer.
Ouais, c'est le fric d'ailleurs, il semblerait, alors on ne l'a pas dans les articles ici, mais je l'ai vu passer par ailleurs, que les nouvelles versions d'OpenOffice, donc pas les anciennes qui elles sont libres et ne changeront pas, mais les nouvelles sont en train de devenir payantes. Donc il y a des versions qui seront utilisables par Internet notamment, mais en tout cas c'est vraiment un gros changement de mentalité et d'orientation. Et là LibreOffice, bah, il se pose en sauveur de ce type de projet, qui est quand même un projet important pour la communauté, donc ça fait du bien.
Voilà, donc il y a toute une série d'articles qui sont sortis là-dessus, sur la sortie de LibreOffice, qui est une version portable, hein, donc c'est des versions qui démarrent à partir de, par exemple, un CD, une clé USB ou des choses comme ça, sans installation. Bon, c'est quelque chose d'assez courant, mais maintenant, voilà, ça existe pour LibreOffice.
Petite cerise sur le gâteau, ils viennent de coiffer au poteau OpenOffice, qui effectivement a raté la sortie de la version 3.3. De toute façon, c'est pas une version majeure, mais le fait que LibreOffice, qui est quand même un projet assez jeune, ils arrivent à sortir juste un peu avant OpenOffice, ils ont vraiment marqué le coup du point de vue médiatique, et bah, ils ont cassé la baraque, hein. Y a rien d'autre à dire.
Donc, jeune et Japix.
Article développé.com, interview avec le créateur du projet open source Japix, un lycéen convaincu des logiciels libres. Article de Kathleen Erna, et qui présente une interview qui a été faite avec un jeune homme, Valérian. Alors, je regarde son pseudo, c'est alias Vanarion. Et qui a fait tout seul, semblerait, en tout cas au début. Donc c'est un petit lycéen, un petit jeune, hein, et c'est bravo. Il a fait tout un serveur de communication instantanée, donc qui était très à la mode, mais qui l'est encore toujours aujourd'hui. Notamment bah, quand on pense Google Talk, ou les petites barres qui sont en bas à droite dans Facebook, qui permettent de discuter avec vos amis, vos contacts. Et bien ça passe par des passerelles de communication instantanée. Et lui, bah, ce qu'il a fait, ça, Japix, c'est un outil de communication instantanée qui passe par un site web, un site en PHP et JavaScript. Et bah, il a fait ça un petit peu tout seul dans son coin. Il s'est débrouillé avec les technologies. Il a appris par lui-même à faire du PHP d'un côté, du JavaScript de l'autre. Il a fait toute la partie serveur, toute la partie design de Japix. Et le résultat est assez convaincant. Ça a l'air d'être vraiment pas mal. D'ailleurs, tu t'es inscrit dessus, toi, Luc ?
On s'est inscrits tous les deux, hein, on s'est échangé quelques messages aujourd'hui, et effectivement, ouais, c'est bien foutu. Enfin, moi, l'aspect technique me dépasse, mais en tout cas, bah, c'est plutôt joli à l'arrivée, et puis c'est bon, ça a l'air plutôt bien pensé. Alors, on voit que c'est encore jeune, et il y a encore plein de trucs qui peuvent être améliorés, tout ça, mais bon, c'est quand même plutôt clair, quoi.
Et puis alors c'est dans la lignée de tous les réseaux sociaux en ce moment, on avait beaucoup parlé de diaspora, on en reparlera, hein, ils sont très à la mode, et bien là Japix c'est quelque chose qui s'oriente un petit peu dans cette direction là, il y a le côté contact, amis, les gens avec lesquels on discute, c'est basé sur un standard maintenant, un standard de fait, qui a été poussé alors encore une fois par Google Talk, Facebook et plein d'autres clients qu'on utilise sans forcément le savoir.
XMPP.
Ou aussi Jabber, hein, donc XMPP, je ne sais plus ce que c'est, hein, XML quelque chose, un acronyme barbare, mais en tout cas, bah, ça permet de discuter de manière instantanée, et c'est standardisé de manière très forte, hein, y a beaucoup de réseaux qui l'utilisent, et bon, bah, ça fait plaisir, et puis surtout, c'est un petit lycéen qui se lance là-dedans, moi je trouve ça génial, et il n'est pas si petit que ça ce gars, c'est vraiment une grosse pointure, bravo.
Alors donc, les pieds dans la grosse commission.
Oui, un article Info DSI entre Windows et Open Source, le cœur de la commission ne balance pas, de la rédaction.
Okay. Bon, alors, ouais, enfin, ça me brise le moral. Enfin, c'est un peu la suite de ce qu'on avait évoqué il y a quelques semaines sur le fait que l'Europe avait vidé de son contenu un document qui devait normalement favoriser l'interopérabilité, ce genre de choses. La publicité prononcée sur le sujet, bon, bah là, on voit la conséquence. Bah, la Commission européenne va passer 36 000 postes de Windows XP vers Windows 7. Il n'y a pas eu vraiment d'appel d'offres derrière, etc. Et à l'époque, on avait mentionné donc des députés européens qui s'alarmaient un petit peu qu'on puisse à la fois condamner Microsoft et après ça lui passer une grosse commande. Ben voilà.
Internet, j'arrête quand je veux.
Alors, pas tout à fait. Un article de Numérama, Égypte, Internet coupé, des solutions improvisées. Un article de Julien L. Donc ça revient sur ce qui se passe en Égypte. On a parlé de la Tunisie les semaines passées, maintenant c'est en Égypte que ça pète, et vous en avez sans doute entendu parler, le gouvernement a décidé de couper Internet, enfin, vraiment couper, donc c'est pas de la censure ou du filtrage, c'est une coupure brute, et du coup réaction de FDN, French Data Network, un fournisseur d'accès associatif, ils ont monté une connexion minimale, un numéro de téléphone quelque part en France pour se connecter en 56K.
Oui, alors login Toto, passeport Toto, ils s'en vantaient. Et effectivement, l'idée, c'est de permettre à des gens qui ont une connexion terrestre à une ligne, un téléphone fixe, parce que les téléphones portables aussi ont été coupés en Égypte, semblerait, en tout cas dans certains lieux. Et donc, par cette ligne fixe, de quand même avoir une utilisation minimale d'Internet. Chose des plus intéressantes, et c'est assez rare, donc je le note, Slashdot, qui est le site, à ma connaissance, le plus gros et le plus conséquent pour les geeks du monde entier, site en anglais, reprend cette news et indique voilà, il y a un petit truc français FDN qui a offert une ligne ouverte avec un login mot de passe toto-toto. Donc les Américains ne comprenaient pas trop d'où venait ce toto-toto, c'est assez amusant. Et donc ça fait plaisir parce que Slashdot, c'est vraiment le gros truc. Ce qui fait peur, c'est que par contre, s'il y a deux ou trois gars de Slashdot qui sont connectés sur la ligne destinée aux Égyptiens, ils ont dû bouffer la bande passante. Ça, Slashdot est connu pour ça, c'est le Slashdot Effect, ça fait mal. Bon, autre chose, toujours sur le même thème, c'est Never Give Up, un site plus ou moins blog qui reprend. Internet, la réponse est non, mais quelle est la question? Et en l'occurrence, qui reprenait ce qui avait été repris sur un article OVNI, peut-on éteindre l'Internet? Il y a eu des conférences et des débats, notamment avec Tanguy Morlier, le président de l'April, qui discutait et qui essayait de mettre en avant est-ce qu'on peut couper Internet, tout simplement, d'un point de vue technique, de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut le faire, est-ce que c'est faisable et pensable? C'est pensable, on n'en doute pas. Et on se doute aussi que les gouvernements, comme le gouvernement français, aimeraient beaucoup pouvoir contrôler à son bon désir. Mais bon, aujourd'hui, ce n'est pas faisable en l'état de l'art. En tout cas, c'est ce qu'on en pense, c'est ce qu'on en espère.
Voilà, en tout cas, Internet, j'arrête quand je veux. On voit qu'en Égypte, le gouvernement a arrêté Internet et ça ne résout pas ses problèmes. C'est plutôt encourageant, on va dire.
En tout cas, bonne chance. Bonne chance aux Tunisiens et bonne chance aux Égyptiens. On leur espère le meilleur. Et tenez bon.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Et oui, ils ont essayé de couper Internet. Ils ont dit aux opérateurs, maintenant, il faut couper le net. Et effectivement, ils l'ont coupé de plusieurs manières. C'est-à-dire que on n'annonce plus nos réseaux égyptiens. Donc, plus personne dans la planète ne sait comment aller en Égypte, en tout cas sur l'Internet. On fait aussi que les serveurs de nom, les fameux serveurs DNS, ne répondent plus aux requêtes. Donc, on ne sait même pas quelle est l'adresse. Voilà comment on coupe un bout de l'Internet, en tout cas en Égypte. Peut-être ils voulaient libérer des IPv4 dont c'est la pénurie. Donc, comme ça, quand on coupe Internet dans un pays, on libère peut-être des adresses. En tout cas, c'était la revue de presse de l'April de la semaine 4 que vous retrouvez sur april.org et puis sur dogmazic.net. Dogmazic.net dans lequel Gilles a pioché différentes musiques. Oui.
Oui, différentes musiques, Pascal. Différents. Tu le dis fort à propos et fort justement.
Différentes musiques.
Et pour aller dans le sens de cette pertinence, on va tout de suite vous dire de quoi il s'agira pour ce premier titre. L'artiste s'appelle Black Poetry. Elle est probablement britannique du Royaume-Uni. un jeu musical, en quelque sorte, une influence assez slam sur des phrasés avec beaucoup de textes. Et puis sur sa petite page dogmatique, eh bien, un petit poème de John Keats. Quelque chose de bien emmené, avec une bonne énergie. Et puis, bah, je dirais, assez correctement produit. Cet extrait de l'album I'm a Communist Girl, une autoproduction, c'est en licence C Réaction, un morceau porté au répertoire sur Dogmazik fin août 2010. Et le morceau de Black Poetry qu'on va écouter, c'est Dear Huey.
In my belly, and I am reduced to fingers and thumbs. I clap my hands, stomp my feet, shout and sing, giving voice to every element and accent of we. Recovering from revolutionary suicide attempts, I haven't forgotten you, Huey. I would have brought you soup. I won't set roses upon your grave. My work involves shovels, I dig. My work involves hammers, I build. My work involves torches, I burn. My tongue salty with your memory, I miss you tremendously. Your spirit still speaks, reaching far beyond the mask of afro pics and balled up fists, reaching for handfuls of skies if dreams can be manipulated by fingers. You're still trapped inside my psyche like an open wound, clotted blood in ears from hemorrhages of compromise, comfortable as bloody pillowcases. You can get used to anything. I sing for you, Huey, as if your spirit only waited for me to wear you. I bear your burden as a truth teller taking up arms. You call me from my resting place to serve my loved ones' compassion in carefully woven stews and handmade bowls. We remember community this way. We remember you this way. We honor us this way. We carry picks and pistols and prayers in our pockets, stretch fingers toward the sky and close fists once we can feel you. The struggle to embrace ourselves enough to overcome is still a struggle. I haven't forgotten you, Huey. I pour chicken noodle libations in your honor while I respect my lips, my tongue, my voice enough to use them. I see your shadow dance in the flicker of every candle. I see your afro in spring trees, and I'm sorry that they hated you, Huey. When you couldn't perform miracles in anything more than the appearance of work, sacrifice, discipline, change is no magic trick, and they let you die for this. Shooting up instead of out, and I wonder if it's a lost cause, Huey. Loving my community so unconditionally when the streets digest the blood and bones of slain soldiers and pave over their remains like so many unmarked graves. Tell me, Huey, was it worth the sacrifice? Your blood still flows through the gutters over broken bottles of dreams and messages forgotten like you. We don't talk about you at school, Huey. We've been lulled by dropping bodies so deep in a trance we don't remember what hope is. Only the ignorant pray, the rest of us get used to it. As even bad dreams are less alarming than waking to this. And who are we to free the unwilling? Perhaps your spirit calls to spill my blood onto the street so we can finally mingle. Perhaps you need me the way I need you, and we can only rest when together. You deserve a love letter from me to you, Huey. I will never forget you. The struggle continues.
Vous avez entendu tout au long du morceau ce petit bruit bizarre qui était en fond. Et c'était donc Black Poetry, une artiste britannique. Le titre, c'était Dear Huey, c'est sous licence C Réaction, et l'album s'appelle I'm a Communist Girl. Et vous pouvez retrouver évidemment cette musique sur dogmazik.net, pardon, D-O-G-M-A-Z-I-C, pour Dogmazik.
Ou sur l'article de l'émission avec tous les liens, divergence-fm.org, rubrique société, rubrique divergence numérique.
L'Association française des utilisateurs de logiciels libres faisait son assemblée générale le week-end dernier à Montpellier. Et tu y étais, Pascal. Toi, tu y étais. Moi, je ne pouvais pas y être car j'étais en lutte avec un virus qui n'avait rien d'informatique.
Et oui, c'était le 29 et 30 janvier à Montpellier. L'association francophone des utilisateurs de logiciels libres donc tenait son assemblée générale donc bilan 2010 élection du CA des mouvements et puis bien sûr perspective 2011. Ils nous ont livré une interview au Saut du Lit le dimanche matin. Voilà, c'était Thierry Stauer, Laurence Seguin, Véronique Fritière de la FUL.
Combien de personnes y avait pendant ce week-end pour cette assemblée générale à peu près comme ça?
Alors présent, il y en avait une quarantaine. On approchait quasiment la cinquantaine de personnes au plus fort de cette réunion puisque c'était le démarrage de l'assemblée, c'était le samedi à 14h. Donc le soir, il y avait beaucoup de monde. Et puis après, donc le dimanche, c'était des ateliers le matin avec du GIMP, avec Dimitri Robert, ou Inkscape par Véronique Fritière. Plus, y avait Jean Perrateau aussi qui présentait aussi quelque chose sur le net, les espaces voilà, numériques. Une convivialité très sympathique. Et puis autour d'une table aussi. En plus, c'était dans la salle. À l'espace Jacques Ier d'Aragon, donc très pratique, pas beaucoup de déplacements entre la salle d'assemblée et puis la restauration. Ils ont trouvé ça bien sympathique malgré le mauvais temps.
Et oui, un mauvais temps qui arrive de temps en temps quand même dans notre région, il faut bien le reconnaître, même si c'est finalement pas si souvent que ça. Bilan 2010 donc de l'Association francophone des utilisateurs de logiciels libres, enregistré ce dimanche matin dernier avec Pascal Rollier.
On se retrouve maintenant avec Véronique Fritière, Thierry Stauer, Laurence Seguin de La FUL. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour à vous.
Déjà, qu'est-ce que La FUL ?
Eh bien, je vais répondre. La FUL, c'est l'Association francophone des utilisateurs de logiciels libres, qui est une association qui existe depuis 1998, donc bientôt 13 ans, et qui rassemble des utilisateurs, comme son nom l'indique, qui sont aussi bien des particuliers, des entreprises, des associations, et tous les utilisateurs possibles et imaginables au travers de différents groupes, de travail, avec aussi tout simplement le fait peut-être de soutenir l'action à propos du libre et d'être des fois juste simple adhérent, le simple étant pas du tout péjoratif. Et voilà, on s'est réunis hier en assemblée générale.
Donc vous êtes présent à Montpellier pour votre assemblée générale qui s'est déroulée les samedis et dimanches 29 et 30 janvier. Comment ça s'est passé ?
Ben ça s'est très bien passé. D'ailleurs, on a eu un fort soutien local de Montpellier Libre, de Montpellier Wireless, de La FUL. Et l'organisation était vraiment d'enfer. Ce qui fait qu'on a vraiment pu se concentrer sur les travaux qu'il y avait à mener au sein de l'Assemblée Générale. Parce qu'il y a eu beaucoup de débats, comme à chaque fois, je dirais, qu'il y a une Assemblée Générale de La FUL. Mais là, ça a été particulièrement douloureux parce qu'on refondait complètement les statuts de l'association. Parce qu'au bout d'une bonne décade, il faut revoir les statuts parce qu'ils ne sont plus en phase avec les enjeux de la société, avec ce qu'est l'association. Donc ça a été un gros travail et je dois dire merci beaucoup à tous les gens locaux qui nous ont vraiment aidés et qui ont été vraiment super sur leur gars.
Alors qu'est-ce qui se dégage, puisque c'est une assemblée générale, on tire les bilans, qu'est-ce qui se dégage de cette année 2010 ?
Eh bien là, pour l'année 2010, on va dire il y a une certaine continuité. Déjà parce que il y a des activités qui sont toujours là, qui se maintiennent, et même pour certaines qui sont encore plus présentes. Toutes menées, il faut le souligner, d'entrée par des bénévoles qui prennent sur leur temps, qui prennent sur leur temps libre, pour faire du logiciel libre, pour parler de logiciel libre, pour expliquer, pour intervenir à propos de logiciel libre et de ce que fait la FUL, au travers donc des différents groupes. Alors les groupes, il y en a plusieurs. Il y a un groupe Éduc qui, comme son nom l'indique, s'occupe de l'éducation de la maternelle au supérieur, qui est un des plus anciens groupes éducation, les plus anciens groupes, pardon, de la FUL, depuis sa création quasiment, le groupe s'est créé. Il y a aussi toute l'action de Racketticiel, qui est vraiment très importante aussi, cette action, avec vendredi soir des informations qui sont justement tombées à propos des actions qui sont menées, notamment devant la justice. Pour faire valoir le droit et ce qui était écrit dans la loi à propos de la vente liée.
On peut en parler un petit peu, hein. Tu sais qu'on a un peu de temps sur divergence numérique, justement comme c'est un sujet qui nous tient à cœur ici à Montpellier sur, dans l'émission, le Racketticiel, justement ces décisions qui sont tombées vendredi dernier.
Alors, elles sont tombées un petit peu avant, mais on les a communiquées que vendredi dernier. C'est vraiment deux grosses décisions de la Cour de cassation de Paris. Donc, c'est une des plus hautes autorités judiciaires de France. Donc, ce qui fait que c'est vraiment très important, parce que faut voir le cheminement de ces dossiers-là. Un des dossiers qui a été cassé a été initié en 2006. Donc 4 ans après, on a enfin une décision qui se termine. L'autre, c'était l'année suivante, c'était en 2007. Et ces deux décisions sont issues de deux personnes, deux membres, qui ont décidé d'aller en justice pour faire valoir leurs droits. C'est vraiment pas anodin, c'est pas la FUL elle-même qui est partie, c'est des membres de la FUL qui se sont dit, voilà, on va essayer de faire quelque chose dans notre coin, on va faire un procès, ils perdent le procès. Comme ils avaient perdu ce procès-là, la décision d'aller en cassation a été prise en Assemblée Générale, si je ne m'abuse. Je crois que ça a été pris en Assemblée Générale. Parce qu'il fallait avancer beaucoup d'argent pour mener une cassation. Donc, pour les gros postes de dépenses, généralement, on fait appel. Et puis, comme c'était stratégique, on pouvait perdre cette cassation. Si on perdait cette cassation, on avait une grosse jurisprudence contre nous.
Ah oui.
Donc là, maintenant, on a deux grosses jurisprudences contre les constructeurs. Donc voilà, c'était vraiment c'est vraiment un élément clé de ce combat-là, parce qu'on remet tout à plat et avec une vision vraiment très, très technique, juridique. Et parce que plus ça va, plus c'est difficile pour le simple particulier de faire son procès. Il y a 5 ans, c'est l'argumentaire, il était, je dirais, relativement simple parce que les constructeurs ne se défendaient pas. C'est-à-dire, donc le particulier se retrouvait face devant le juge, il n'y avait personne à côté en contradiction. Là aujourd'hui, ils amènent des avocats de cabinets extrêmement réputés avec des argumentaires très très techniques juridiquement. Juste pour donner un ordre d'idée, les conclusions des avocats à la partie adverse, ça fait 45 pages. C'est, au tribunal de proximité, ça se voit quasiment jamais, des conclusions de 45 pages. On voit ça dans les cours d'appel, on voit ça dans les instances judiciaires standards, mais pas au tribunal de proximité. Généralement, tribunal de proximité, c'est pour des petits litiges, donc voilà, c'est juste un petit exposé oral, pardon, et le juge tranche. Et là, ça devient très technique. Donc, il a fallu, nous aussi, qu'on se batte. Et là, on fait appel à des avocats, dont c'est le métier, et en plus libristes, et qui font leur travail excellemment bien. Ce qui fait qu'on a maintenant une vraie vision judiciaire, et on se bat sur le même terrain qu'eux. Et ce terrain-là les embête beaucoup. Parce que ce n'est pas uniquement un terrain idéologique ou purement des idées, c'est un vrai terrain judiciaire. Et là, c'est vraiment le grain de sable dans la machinerie.
Racketticiel, d'autres domaines ?
Oui, alors déjà tout simplement, il faut le citer, même si ça paraît évident de la part d'une association à propos de logiciel libre, c'est pour la FUL d'être présente à différentes manifestations, de soutenir différentes manifestations. Je pense notamment évidemment aux rencontres mondiales des logiciels libres depuis les débuts, d'avoir des stands, de participer, d'organiser des conférences sur tout un tas de thèmes, puisqu'on a des membres qui sont actifs dans des secteurs très très différents. Ça va de l'éducation que j'ai citée, aux standards, en passant par différentes actions d'explication, de sensibilisation. Donc ça, c'est tout l'aspect, tout le volet stand, salon où la FUL était présente. Il y a aussi une partie communication qui est pas négligeable, nécessaire et qui pourrait être plus importante aussi, mais qui est quand même avec des communiqués de presse sur différents sujets qui ont pu paraître, notamment à propos de l'éducation. L'année dernière, c'était une actualité qui était déjà assez importante. De manière générale, il y a, même si c'est pas très visible des fois, ça n'a pas forcément objectif d'être visible, des actions qui sont menées par les membres de manière directe, indirecte, auprès de leurs contacts, des fois à des niveaux qui sont surprenants parce qu'on n'est pas forcément au courant, sauf au moment de l'Assemblée Générale, où il y a vraiment des échanges et puis le rapport moral qui est assez long et qui traduit tout ce qui est fait et qui est agrégé et qui donne quelque chose d'assez conséquent finalement au terme d'une année 2010.
Alors pendant cette Assemblée Générale, évidemment, sans doute, des changements importants au sein de l'association.
Alors c'est peut-être le moment venu de vous annoncer la constitution du nouveau conseil d'administration. Vous avez maintenant M. Laurent Séguin à titre de président, M. Thierry Sterre qui a pris le titre de vice-président, également la même position pour Jean-Yves et Camille au titre de vice-président. En secrétaire, nous avons Marc-Aurel Darche, trésorier Philippe Allard et vice-trésorier Philippe Nenner. Naturellement, reste à leur côté pour différentes fonctions et entraide Jean-Pierre Gratou, Erwan Hamon, Dimitri Robert, François Hilly, Henri-Pierre Charles et Véronique Fritière.
Tous membres du conseil d'administration.
Eh oui, un nouveau conseil.
Nouveau conseil, nouvelle peau ou redistribution de cartes ? Peut-être un changement.
Un peu des deux.
Qui avait besoin de.
Un peu des deux.
Un peu de sang neuf, peut-être.
En vraiment tout neuf.
Ah bah
c'est Philippe Nenner. Non.
Il y a une expression qui est vraiment tarte à la crème, qui s'appelle le changement de la continuité. Je crois qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que l'association a besoin aussi d'aller de l'avant. De voir peut-être aussi d'autres choses, de mener d'autres actions que ce qu'elle a mené jusqu'à présent, tout en continuant d'être présente sur ces secteurs historiques, comme on dit, ou à propos d'actions qui ont déjà été menées. Moi, pour ma part, ça faisait presque 7 ans de présidence de la FUL. Je suis très content de pouvoir... transmettre le flambeau et que Laurent Séguin soit désormais à ce poste de président. Et ça s'est fait de manière tout à fait naturelle. Il n'y a pas eu, pour couper court au ragot de Opener, le magazine hebdomadaire des ragots du logiciel libre. Il y a Closer de l'autre côté. Bon, elle est très mauvaise. Donc, ça s'est très bien passé, très logiquement et tout à fait sereinement.
Et ce nouveau CA avec ces nouvelles têtes au bureau, peut-être des décisions pour 2011 ou en tout cas des perspectives. Donc une continuité évidemment des projets actuels dont on a évoqué tout à l'heure pour 2010 et 2011, peut-être d'autres choses en plus ou d'autres, les mêmes choses d'une autre manière ou...
Alors les mêmes choses d'une autre manière, peut-être, on verra. Il y a probablement les mêmes choses, ça c'est sûr. D'une autre manière, sur certains points, oui, parce qu'on se rend compte avec l'expérience qu'il faut peut-être faire autrement. Toujours la même action, avec toujours les mêmes objectifs, mais avec une approche différente, peut-être un peu plus fédératrice autour de la FUL. C'est très important d'impliquer les différents acteurs qui sont impliqués. C'est une palissade, ça.
Oui,
c'est pas grave. Et autrement, des nouveautés. Ouais. En nouveauté, il y a quelques temps, j'avais fait un constat qui est que les associations du libre en général ne s'adressent pas à une cible. Et cette cible, ce sont les entreprises qui achètent du logiciel libre. Et ça, je pense que ça manque dans le paysage. Donc c'est important d'essayer d'aller vers elles pour qu'elles se regroupent, qu'elles discutent entre elles, qu'elles essaient de mener des projets. Et l'AFUL est le vecteur naturel, puisqu'on est une association d'utilisateurs. On fait la promotion du logiciel libre, des standards ouverts, etc. Donc c'est vraiment notre credo de fond. Et aller voir ces entreprises simples utilisatrices qui ne sont pas forcément à 100% libres, mais qui se posent la question, voilà, je fais une migration logicielle, donc ça peut être un logiciel, pas forcément de passer du Windows à Linux ou à FreeBSD, ça peut être juste, voilà, je me pose une question pour mon ERP, qu'est-ce que je prends? Est-ce qu'il vaut mieux du libre ou pas? Pourquoi? Donc voilà, ça va être quelque chose qui est de fort cette année, qu'on va lancer à plusieurs. Et voilà, c'est quelque chose qu'on... C'est vraiment la cible qu'aujourd'hui, personne ne s'adresse à eux. Donc voilà, on se tourne vers eux, on va leur tendre la main, puis on va voir s'ils accrochent ou pas.
Un petit mot pour conclure. Eh bien, si à Montpellier, il n'y avait pas le soleil dans le ciel, en tout cas, il était dans nos cœurs et dans l'organisation, ça c'est sûr.
Thierry, peut-être ?
Bah, pour ma part, c'est marrant. Alors, ça va être complètement... à part du logiciel libre, mais moi, il y a 25 ans, j'étais à Montpellier, j'étais interne juste pas loin par là-bas, et c'était marrant de passer à côté du lycée Joffre en se disant, tiens, c'est marrant, un quart de siècle après, ben voilà, il y a des choses qui passent, et il y a des choses qui évoluent, et je pense que c'est aussi le sens de l'évolution au niveau de la FUL, et je pense que c'est aussi très bien.
Laurent,
moi, pour conclure, j'ai envie de me tourner vers les gens de Montpellier qui œuvrent pour le logiciel libre, les standards ouverts, les nouveaux usages numériques. Il faut qu'ils continuent, il faut qu'ils fassent ce travail qui est très important au niveau local. Ils font un travail super. Je suis un peu de loin tout ce qui se passe à Montpellier, à Montpellier Libre. Il y a des trucs sympas. Il faut vraiment qu'ils continuent parce que c'est hyper important ce qu'ils font.
En tout cas, je vous... Oui, Thierry.
On va faire les affreux démagogues hein, et que Divergence FM continue aussi comme
bien
il
sûr.
Le fait.
Hein. Ah oui, Divergence Numérique, à ne pas louper votre émission hebdomadaire sur le libre, les logiciels libres. Et puis d'autres programmes aussi sur Divergence FM, notamment le libre, ce n'est pas que du logiciel, c'est aussi une culture, une philosophie, donc ça va bien au-delà de ça. Et puis évidemment, on se retrouve sur les différents salons, les différentes manifestations où nous sommes évidemment présents. En tout cas, je vous remercie à vous trois, merci à la FUL, et puis si vous voulez intervenir sur les ondes de Divergence Numérique, l'antenne est ouverte. Voilà, merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci, au revoir.
Et c'était donc enregistré ce dimanche dernier, voilà, dans les studios de Divergence, par Pascal Relier, pour vous servir.
Et oui, tout à fait, avec les nouvelles têtes, une partie des nouvelles têtes de la FUL à ful.org.
On a bien mérité un petit peu de musique après tout ça. Et on va se transporter doucettement. Alors, quand je suis arrivé sur le site de Dogmazic ce matin, j'ai fait une recherche thématique, chose que je ne fais jamais. Je suis allé chercher par genre et puis je suis allé dans Gospel. Et là, j'ai trouvé quatre titres qui très honnêtement, n'avaient pas grand-chose à voir avec du gospel pour aucun d'entre eux, si ce n'est peut-être une vague orientation musicale qui m'a permis quand même de découvrir Doctor Migraña, le Docteur Migraine, un groupe espagnol, comme son nom le laisse imaginer, qui joue plutôt, on va dire, une fusion de rock et de cumbia, etc., comme pas mal de groupes de rock espagnols, mais qui, sur ce titre-là, Tus Moros, on fait un espèce de petit de petite chorale gospel a cappella. Alors on se rend compte, pour les puristes du gospel, qu'il manque sérieusement une basse, parce que c'est vrai qu'elle n'est pas vraiment là, mais c'est pas mal avec la douceur latine, avec tout ça. Donc on va écouter ce titre dont je vais vous détailler à l'instant la licence. C'est une Creative Commons by NCSA, ça veut dire citer l'auteur, partager sous la même licence, et ne faites pas d'utilisation commerciale sans son accord 3.0. Et c'est un morceau du mois de juin 2010. En tout cas, c'est la date approximative à laquelle il a été déposé, et pas du tout approximative d'ailleurs, sur dogmazic.net.
me muera por tus marras. Me muero por tus morros. Me afeña lupafina. Esos labios carnosos hechos para gozar. Me muero por tus besos, tu risa, susurros, caricias. Me hacen estremecer. Me muero por tus gestos, tus guiños, gemidos, lamentos. Voy a enloquecer. Tus labios son la droga que más me hace flipar. Calientes y jugosos, ya voy a despegar. Me muero por tu boca, me tientas siempre que me tocas. Tus labios son la droga de todas la que más me mola. Me muero por tus morros.
Et voilà, c'est terminé. C'était assez bref, certes, mais bah voilà, c'était plutôt sympathique. Des morceaux très courts ce soir. Hein. Celui-là, il faisait 1 minute 30, à peu de choses près. Et puis voilà, c'était donc Dr. Migraña avec Tous Moros, sous licence Creative Commons by NCSA 3.0, une autoproduction et un groupe qui est localisé entre El Monte y El Mar en Espagne, comme vous l'aurez compris. Ils ont pas mal de titres sur le site de Dogmazic. Et puis ils ont un site à eux aussi, donc c'est plutôt à découvrir.
Vous êtes toujours sur Divergence Numérique, les musiques libres, on en parle aussi dans Allez Libre, ma musique, émission de promotion pour les musiques en licence ouverte. En tout cas, Divergence Numérique, c'est sur Divergence FM 93.9 et puis Radio Escapade 104.1, 103.3. On poursuit, cher...
On va poursuivre en musique avant l'agenda du livre, incontournable rendez-vous, avec un artiste britannique qui s'appelle The Womb, Womb, W-O-M-B, ce qui veut dire, on va dire, la matrice, ça peut désigner l'utérus, par exemple. Et le titre Lolita Alcoholic, alors c'est un artiste, quand on écoute les très nombreux titres qu'il a déposés sur la plateforme Dogmazic, on se demande s'il n'est pas finalement fait pour faire de la musique de film, de la musique à l'image, etc. Tant sont variés un petit peu les arrangements qu'il propose, qui vont un petit peu des choses un petit peu électroniques à d'autres choses, un petit peu plus soul ou R&B. Il est à Bath, en Angleterre, et pas mal de ces trucs sont un petit peu inachevés. On a ce sentiment un petit peu. Nonobstant, il y a des choses plutôt intéressantes, comme ce qu'on va écouter, un extrait d'une minute 37, Lolita Holic, sous licence Creative Commons Non-Commercial Sampling Plus 1.0. Un morceau relativement frais, puisqu'il est de septembre 2010, extrait de l'album Dark Knight Out, sous le label Daniel Records. Et c'est un titre, alors peut-être c'est un fait exprès, mais à la fin du morceau, vous allez vous rendre compte qu'il y a une des deux guitares qui est plus vraiment calée. Et puis le morceau s'effondre de lui-même. Alors soit c'est un effet voulu, soit c'est un morceau à finir. Je vous laisse juger tout de suite.
And you love all those Lolitas, all those teenage señoritas. Have you ever had a woman? Did you even know what to do with one? Love all those Lolitas, all those teenage señoritas. Have you ever had a woman? Would you even know what to do with one?
You're a killer of a lover when I get you undercover. But by day you never say that we ever touch each other. And your reason for believing that I need another mother was the hook that I took her just to get me through the weekend. You never caught me cheating, but you know that I've been sleeping with the people I've been meeting every other evening. I can't believe you thought that I'm the stupid to be caught. Never leave a reference, I always burn the evidence.
Love all those Lolitas, all those
away so easily. I want to have playgrounds wandering you to lay down. I'm still seducing schoolgirls and there's plenty left in this town. They say that it's pathetic, but I tell you to forget it. It can trouble on your conscience, but only if you let it. Anyone can get a girl who doesn't know any better. And you know you don't credit, but this place is on my checklist. I never had a girl who said that I was her first. I put my vices in verse, and vice versa.
Love all those Lolitas, all those teenage senoritas. Have you ever had a woman? Would you even know what to do with one?
Eh oui, est-ce que tu saurais faire si tu en avais une, dit-elle, une voix assez charmante. Mais voilà, c'est des petits morceaux assez intéressants, mais qui, on dirait qu'ils sont presque inachevés, quoi. En tout cas, un bon groove, moi ça m'a bien plu. The Womb, ça se trouve évidemment sur Dogmazic, comme on l'a rappelé, et il a même un site à lui, www.alandriscoll.com/thewomb. Voilà, tout est dit sur ce morceau. Et avant de se quitter avec Dr Paradox, le traditionnel agenda du libre.org pour nous autres hexagonaux.
Et oui, .be pour nos Belges et ou .qc.ca pour nos Québécois de CKIA, la Voix du Libre. Petit coucou à eux aussi. Alors on peut par exemple noter le vendredi 4 février à Montpellier, au Kawenga, ce sont les points libres. Donc à partir de 14h jusqu'à 19h, donc des ateliers pratiques sur le thème des logiciels libres organisés et animés par Montpellier Libre. Et ses partenaires, c'est juste à côté de chez nous.
Et puis si vous êtes un petit peu plus dans le nord, ce sera à Téran que de 16 à 18h, toujours demain, vendredi 4 février, vous pourrez assister à un atelier libre à la médiathèque Place du Ballon à Téran. Demain un atelier OpenShot Video Editor dans la première heure et de 17 à 18h un atelier Audacity.
Et oui, grand classique à Téran, Castelnau-le-Lez, le 8 février, des libres, section Linux, donc à la MJC. À Téran également, aussi des ateliers libres, Notion PC, toujours à la médiathèque de Téran. N'oublions pas le 11, ce sont les deuxièmes jeudis donc du libre qui se passe à Nîmes avec la Linuxerie, et puis ce sera la naissance ce jour-là de donc du GUL officiel, la Linuxerie.
Et puis si vous avez le logiciel libre dans la peau, eh bien c'est à Pau qu'il faudra aller le 12 pour une Ubuntu Party. Ce samedi 12 février de 14 à 18h en Aquitaine, donc à la cyberbase Pau Pyrénées. L'entrée sera gratuite de 14 à 18h. Vous retrouvez cette info sur l'agendadulibre.org bien évidemment.
En tout cas, où que vous soyez, allez-y, allez voir, rencontrer donc ces acteurs du libre à Paris, à Brignoles, à Dijon, à Toulouse. En tout cas, il y en a un petit peu partout en France.
À Brignoles, à Lille, à Charleville-Mézières, à Guesnac-H, à Rennes.
À Wissenheim.
Voilà, il y en a vraiment partout. Et souhaitons que tous ces pingouins se multiplient sans endommager la nappe phréatique.
Sauvegardons les pingouins en tout cas.
Je crois qu'il est l'heure de nous quitter. Chers auditeurs, chères auditrices, que vous soyez sur le 93.9 de Montpellier ou sur le 104.1 ou le 103.3 de Radio Escapade, on va se quitter avec Dr Paradox qui signe notre générique de Divergence Numérique et dont on va écouter ici Beyond the Horizon. Pour terminer l'émission, aller au-delà de l'horizon, c'était assez facile. Extrait de l'album Frame Independent, une autoproduction. Un artiste qu'on retrouve évidemment sur Dogmazic et qui égal à lui-même poursuit tout doucettement sa production jusqu'à la semaine prochaine.
Merci à vous de nous écouter, merci de votre fidélité et puis portez-vous libre.
Et portez-vous bien. Beyond the horizon of time and space. Beyond the horizon of time and space.
Many sad memories are already forgotten. 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 Many sad memories are already forgotten.